l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des publications d'histoire. Ce matin avec deux livres sur l'économie et l'industrie au Moyen-Âge. Pour commencer, dans sa chronique mensuelle « La fabrique de l'autre » qui décrit l'invention et le développement d'un qualificatif appliqué à un autre, quel qu'il soit, Catherine de Copé nous offrira la généalogie du mot « entrepreneur ». D'entreprise, il sera d'ailleurs question avec notre première invitée, la médiéviste Catherine Vernat, qui vient de publier aux belles lettres « L'industrie au village », dans lequel, grâce à une documentation notariale exceptionnelle, elle traque la naissance et le développement d'une industrie métallurgique dans ce qui est devenu depuis la Catalogne française, dans la vallée du Vallespir. Puis, le grand historien italien Giacomo Todeschini nous expliquera comment l'économie italienne s'est transformée au Moyen-Âge en Italie sous l'influence de la pensée économique des ordres mendiants et en particulier des franciscains. Et enfin, comme tous les vendredis, nous terminerons cette émission par la rubrique « C'était à la une » avec le site Retro News de la BNF dans laquelle sont lus des grands articles de presse de ces deux derniers siècles. Et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter ce jeudi, le 23, donc à la Bibliothèque Nationale de France pour la lecture du une quinzaine de textes qui serviront justement à cette rubrique de Retro News, donc pour les mois à venir. Ça sera en public donc et enregistré entre 18 et 20 heures à la Bibliothèque Nationale de France jeudi prochain.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arctique, geek, souffri, paysan, Red Coast, Arc, pétroleuse, soufflé. La fabrique de l'autre, Catherine de Copé.
Bonjour Catherine de Copé, ça n'est pas de libelliste ni de pétroleuse dont vous nous parlerez aujourd'hui dans cette chronique La Fabrique de l'Autre, mais d'un autre mot alors que se tient aujourd'hui le sommet social européen à Göteborg en Suède, est un mot qui revient beaucoup dans l'actualité, à savoir le mot entrepreneur.
À l'heure où la Startup Nation revient comme un slogan, j'avais envie en effet de plonger dans l'histoire du chef d'entreprise, figure de plus en plus érigée en modèle social. Alors pourquoi choisir le mot entrepreneur et pas chef d'entreprise ? Eh bien tout simplement parce que le terme est spécifiquement français, au point qu'il a été repris dans la langue anglaise. Depuis quand parle-t-on d'entrepreneur ? Il faut remonter jusqu'au Moyen-Âge pour trouver trace du terme, qui apparaît d'ailleurs avant celui d'entreprise. Et son usage nous emmène assez loin de la sphère économique, vous allez comprendre. Au XIIe siècle, de fait, quand le mot commence à être utilisé régulièrement, il dépend de l'univers de la chevalerie. Le chevalier entrepreneur, dans le roman courtois, est celui qui mène des actions héroïques de combat visant à défendre une cause juste. Progressivement, les entrepreneurs vont désigner les organisateurs de joutes, de combats codifiés. Le terme reste donc lié au chevaleresque et doit être mis en regard de l'évolution du mot entreprise, qui signifie alors au XVe et XVIe siècle des jeux guerriers. Pour autant, l'idée économique ou financière associée au vocabulaire de l'entreprise n'est pas complètement absente de la période médiévale. Au XIIIe siècle, l'entreprise est le fait de mener une action sur la base d'un contrat préalable où le prix est négocié à l'avance. Et du côté de ce qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire l'ensemble des artisans, sont entrepreneurs ceux qui viennent déroger aux règles qui régissent les différents corps de métiers. Ces entrepreneurs outrepassent leurs droits, par exemple en se tournant vers un marché moins local, et ils sont d'ailleurs visés par ce qu'on appelle à l'époque la police des métiers.
Alors ce côté hors norme de l'entrepreneur se retrouve d'ailleurs dans une période de l'histoire qui associe définitivement l'entrepreneur et l'entreprise au monde économique, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, Catherine.
On peut en effet le schématiser ainsi, tout en gardant bien en tête que ces deux mots ont eu des sens très flous et glissants, preuve de l'évolution historique à l'œuvre. Revenons au XVIIIe siècle, on parle alors de moins en moins d'entrepreneurs, mais plus d'entrepreneurs en ou de quelque chose. Par exemple, entrepreneur en bâtiment. La construction est d'ailleurs le premier domaine où le terme d'entrepreneur s'applique sans ambiguïté puisque dans les dictionnaires, l'entrepreneur est celui qui conduit un ouvrage en bâtiment, traditionnellement une fonction dévolue à deux métiers, l'architecte ou l'artisan maçon. Le XVIIIe siècle est aussi celui des premières théories économiques qui s'efforcent de donner corps au terme entrepreneur. Chez le français Cantillon, l'entrepreneur est celui qui s'engage dans une activité par son travail ou son argent, mais sans certitude de l'avantage qu'il en tirera, c'est l'idée d'incertitude qui prime. Et chez l'autrichien Schumpeter, l'entrepreneur est celui qui innove dans l'activité économique et qui en tire des résultats. Ici peuvent être entrepreneurs aussi bien un paysan qu'un artisan ou encore un propriétaire de manufacture. On le voit, les notions de risque et d'innovation émergent dans cet effort de définition de l'entrepreneur, des notions qui imprègnent encore le mot de nos jours, bien sûr. Autre élément à noter pour ce 18e siècle, c'est que l'argent devient une donnée incontournable dans la figure de l'entrepreneur. L'entrepreneur investit de l'argent ou cherche à en gagner, ou les deux.
Alors la question du capital sera d'ailleurs centrale au siècle suivant, où l'entrepreneur, Catherine, devient industriel.
Oui, au tournant du 19e siècle, on parle d'entrepreneur en industrie. Alors j'ai tenté de démêler rapidement pour vous les hésitations et glissements de ce mot, mais au 19e siècle, la question se complexifie encore un peu plus parce que la recherche du profit se double d'un questionnement moral. Ce que l'on peut dire, c'est que ce siècle va progressivement donner ses lettres de noblesse à l'entrepreneur, notamment via la figure du patron paternaliste. Au début, l'entrepreneur en industrie, au 18e siècle, qui était par exemple directeur de manufacture, pour faire vite, n'avait pas bonne presse. L'élite était plutôt réservé aux propriétaires, fonciers et autres. Avec l'affirmation progressive d'une logique capitaliste au 19e siècle, investir pour gagner plus en retour, la définition de l'entrepreneur va osciller entre la conduite d'une industrie et la gestion d'un capital, une tension que l'on retrouve, vous le savez bien, encore aujourd'hui. Entre 1850 et la crise de 1929, l'entrepreneur fait en quelque sorte le yo-yo dans les représentations sociales, tantôt dévalorisé, tantôt porté au nu, désormais souvent en fonction des enjeux qu'il va entretenir avec des rapports qu'il va entretenir avec la main-d'œuvre qu'il emploie.
Merci beaucoup Catherine de Coppé pour ce rapide tour de piste de ce mot entrepreneur depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. On pourra évidemment réécouter cette chronique séparément du reste de l'émission et aller surtout sur le site de France Culture où une page est consacrée à votre chronique, La Fabrique de l'Autre. Un petit mot, Catherine Vernard, on va revenir avec vous sur votre travail, L'Industrie au Village, dans un instant. Un essai de micro-histoire paru chez Les Belles Lettres. Il y a toujours débat chez les médiévistes pour savoir si l'entrepreneur existe bien au Moyen-Âge?
Oui, d'une certaine manière, oui. Enfin, pas en ce qui concerne la grande entreprise internationale qui est ancrée d'ailleurs dans les villes qui se développent comme chacun sait au 13e, mais dans les campagnes, incontestablement, et pour les entrepreneurs, on va dire, d'étoffes plus médiocres.
Plus modestes.
Ouais,
médiocre,
oui.
c'est un jugement qualitatif, mais en tout cas plus modeste. On va parler justement de cette modestie de l'entreprise avec vous au 14e et 15e siècle. Bona Donna par l'ensemble Sorimonda qui interprète un morceau qui a été composé dans cette Catalogne du Nord qui est au cœur de votre propre travail, Catherine Vernat. Donc je rappelle le livre pour lequel vous êtes invitée aujourd'hui, à la Fabrique de l'Histoire, L'Industrie au Village, essai de micro-histoire, et le village s'appelle Arles-sur-Tech du 14e et 15e siècle. C'est paru aux éditions des Belles Lettres. Alors il faut peut-être tout de suite pour nos auditeurs vous dire que vous êtes plongé dans une formidable source notariale sur laquelle beaucoup d'historiens, en particulier d'historiens du Moyen-Âge, se penchent pour pouvoir comprendre la vie quotidienne. Vous en êtes presque arrivé à connaître ce village comme peut-être un peu plus tôt. Emmanuel Laura Ladurie avait connu Montaillou par d'autres sources en l'occurrence, c'est-à-dire en le regardant par le biais de ces sources notariales qui vous ont permis de voir l'économie de ce village d'Arles-sur-Tech au XIVe, XVe siècle.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai profité de ce fonds exceptionnel, qui est exceptionnel d'ailleurs comme beaucoup des sources catalanes. C'est pas un hasard non plus. Là, il se situe effectivement conservé à Perpignan, mais il y en aurait autant de l'autre côté de la frontière. Ce sont donc des sources notariées de grande valeur, très très nombreuses en quelque sorte, qui me permettent certes de voir ce qui se passe à Arles-sur-Tech, mais de manière plus large, et c'est ça qui est très intéressant, d'aller également sur l'ensemble, enfin d'enquêter sur l'ensemble du Val-Espire et au-delà, parce que ces sources m'amènent jusqu'à Perpignan et m'amènent même parfois jusqu'en Afrique. Donc c'est ça qui est tout intéressant, c'est ce jeu justement des échelles, des espaces à partir de ce petit bourg encore aujourd'hui.
Et vous vivez avec Perret Bardina et tout un tas d'autres, j'imagine.
Alors j'ai beaucoup vécu avec Perret Comel et Urba Egbela, qui sont quand même mes préférés, parce qu'effectivement les sources étaient les plus nombreuses et effectivement reconstituer leur vie, leur réseau, mais également les suivre, leurs réussites, leurs échecs, sans avoir cette image mythique de l'entrepreneur néanmoins, il faut faire très attention à occuper un certain nombre des années effectivement de ma vie.
Alors il faut dire que Arles-sur-Tech est un bourg, ça n'est pas un village, ça n'est pas une ville, c'est un bourg, et c'est important que de le mentionner, dans un réseau d'autres bourgs qui sont autour d'Arles-sur-Tech, dans cette vallée du Val-Espire, par exemple Prats des Molliots ou encore Céret, qui sont tout un tas de bourgs qui forment, dites-vous, un district. Alors moi j'étais un peu choqué, je me dis un district pour moi qualifie dans l'économie moderne, en particulier l'économie contemporaine, toutes les réseaux de petites et moyennes entreprises qui dans le nord de l'Italie fabriquaient ou fabriquent encore de la métallurgie, des pièces de précision ou travaillent pour la mode milanaise. Or vous utilisez ce terme pour dire voilà, c'est un réseau, c'est un travail en commun où certains se spécialisent dans le bois, d'autres dans la métallurgie, c'est le cas pour Arles-sur-Tech, d'autres dans le transport, etc., etc.
Alors tout à fait, cette notion de district industriel, il faut préciser, bien évidemment, relève de l'histoire contemporaine, de l'économie. Vous avez cité les Italiens, il y avait eu des beaux travaux sur Benetton, justement, à ce propos, autour de l'école de Beccatini, ou même avant, aussi Marshall, beaucoup plus tôt. Là, l'intérêt, bien évidemment, c'était de reprendre cette définition, cette notion. Les médiévistes l'ont fait, mais bien évidemment, les modernistes l'avaient déjà fait, je dois préciser, quand même, pour les 17e, 18e. Et on retrouve incontestablement la spécificité du district, c'est-à-dire cette disposition des petites entreprises et en quelque sorte, la complémentarité des activités. Mais surtout, j'y insiste, la circulation. Oui. Circulation des hommes, circulation aussi, et là c'est très important à mon avis, des capitaux. Parce qu'on n'a pas ce modèle ville-campagne, vous savez, où la ville domine la campagne, oui. Fournit des capitaux, etc.
La ville prédatrice sur la campagne.
Voilà, alors pas forcément prédatrice, mais qui domine, le Cantado, le Verlag. Ouais. Je veux dire, par là, c'est un fait, ça existe aussi, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et puis surtout l'innovation, la circulation des innovations techniques qui est également un ciment du district.
Et il faut quand même dire, Catherine Vernat, que votre livre se veut un livre d'une école particulière qui tente depuis pas mal d'années maintenant de démontrer, en particulier à ses collègues modernistes, que le Moyen-Âge n'était pas un siècle de l'artisanat, mais que c'était pas une période de l'artisanat, mais une période où s'est développé justement ce qu'on a appelé beaucoup plus tard l'industrie.
Alors, je dois simplement vous dire qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de le démontrer aux modernistes qui, eux, en sont tout à fait conscients.
C'est plutôt aux contemporanéistes qu'il
faudrait... Non, pas du tout, c'est aux médiévistes qu'il faut souvent le dire, parce qu'effectivement, le modèle de l'artisanat, l'artisanat existe, le métier, naturellement, les métiers existent, c'est un cadre juridique fondamental. Mais comme l'avait fort bien démontré il y a quelques années Philippe Bronstein, il y a aussi en parallèle une industrie.
L'industrie à la fin du Moyen-Âge, un objet d'histoire nouveau, disait-il.
Voilà. Donc vraiment, il nous a énormément aidés, Philippe Bronstein, en posant cette définition, et il nous a autorisé en quelque sorte, parce que c'était vraiment ça il y a 20 ans. Et en fait, moi, le biais que j'ai pu trouver dans l'histoire des techniques m'a permis d'exploiter un champ un peu périphérique de l'histoire médiévale, pour mieux, en quelque sorte, revenir à des concepts qui, entre-temps, étaient déblayés. Parce que, ils l'ont été, incontestablement.
Alors, ce village d'Arles-sur-Tech fait partie donc de ce district industriel de la vallée du Val-Espire, dans la Catalogne du Nord. Et vous le décrivez avec beaucoup de précision, ce district. Les personnages sont très présents. Il y a des personnages qui sont, d'un côté, des forgeurs, de l'autre côté, des forgerons. Il y a donc des teinturiers, il y a tout un tas de métiers qui sont liés au drap Et il y a la question de l'hydraulique, parce que c'est passionnant de s'intéresser à cette question de l'hydraulique au Moyen-Âge et de la façon dont des innovations techniques vont faire un saut qualitatif, pourrait-on dire, à cette industrie dans les 14e et 15e siècles. Catherine Vernard.
Alors justement, si vous voulez, le fait de reconstituer ces biographies, hein, selon, en quelque sorte, la démarche de la micro-histoire, hein, de les cerner, m'a permis d'essayer de mieux cerner aussi leur rapport à la technique. Et cette démarche permet en quelque sorte de mieux comprendre l'impact technique dans ce district, mais également en quelque sorte sa résonance au niveau européen. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire que j'ai montré que les innovations qui sont tout à fait perceptibles et qu'on peut reconstituer avec ces sources merveilleuses ne sont pas en retard, ne sont pas autres. Non, incontestablement, elles participent d'un même mouvement innovant, hein, qui est celui de l'Occident des 14e, 15e siècles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce jeu des échelles à partir de cas d'hommes modestes.
Alors, en particulier autour d'une innovation dont on ne trouve pas la trace, d'ailleurs, de ce mot dans le trésor de la langue française, il faut que vous fassiez rentrer, hein. La mouline.
Ouais.
La mouline, qu'est-ce que la mouline et pourquoi naît-elle aux alentours de la fin du XIIIe siècle dans la Montagne Noire, se répand-elle au début du XIVe siècle en Catalogne, dans les Fenouillèdes et un peu partout dans ces coins-là?
Alors c'est vrai que c'était un de mes premiers objets de recherche, hein, c'était cette forge de réduction directe, c'est l'ancêtre de la forge à la catalane, hein, bien évidemment, avec donc la production directe de fer et puis son travail au marteau et puis également la soufflerie, hein, qui lui permet d'atteindre un degré de combustion supérieur. Alors après, bon, pourquoi elle naît au XIIIe siècle, enfin à la fin effectivement dans les années 1300, hein, bon écoutez, j'aurais beaucoup de difficultés à vous le dire, en tout cas elle émerge là, et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir surtout, c'est la diffusion et la constitution, et c'est ça qui est fondamental, je crois, d'un territoire technique. C'est-à-dire que cette mouline va conquérir des espaces, elle va s'y inscrire, et elle va être pas en concurrence, mais un peu plus loin, on va dire, si je vais vers les Cévennes, etc., j'ai d'autres types de forges de réduction directe.
La ferrière, la fusine,
voilà.
En Dauphiné.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a eu tout un travail lexicologique, naturellement, là-dessus. Et ça permet surtout de définir des territoires techniques. C'est ça qui est intéressant.
Alors, des territoires techniques auxquels contribuent des gens qui ne sont pas que des Catalans du Nord. Parce que ce qui est fort passionnant dans votre livre, L'Industrie au Village, aux belles lettres, Catherine Vernat, c'est qu'on y croise des personnages qui viennent de loin. On y croise même des conflits. Qu'on appellerait aussi sinon des conflits racistes, en tout cas des conflits de métiers, mais qui aussi sont surdéterminés par des oppositions entre régions. Et alors là, on trouve des Basques partout. Des Basques, des Languedociens, mais des Basques beaucoup.
Alors effectivement, cette mouline, l'enceinte de la forge à la catalane, ça a été parfois difficile de le dire, de l'énoncer en Catalogne, mais bon, même si les capitaux nécessaires à élever ces ateliers sont sans doute, bon, même absolument catalans, la main d'œuvre et les hommes qui font tourner ces ateliers, hein, ces entrepreneurs en quelque sorte, hein, au petit pied, et pas les investisseurs, mais là vraiment ceux qui travaillent et qui réunissent les capitaux, qui vendent, etc., ben ne sont pas catalans. Hein. Ils sont ou languedociens, hein, et surtout ariégeois, d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux également.
Vous avez commencé à travailler vous-même sur l'Ariège.
Voilà, d'ailleurs j'ai retrouvé certains de mes hommes, donc c'est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que le flux majeur, ce sont les Basques. Des Basques qui viennent effectivement de Biscaye, de Guipuscoa, des grandes régions de sidérurgie, et qu'on voit arriver. Alors rentrent-ils tous les ans, font-ils allers-retours? Je les vois ainsi aller de forge en forge pendant parfois 30, 40, 50 ans. Et on arrive à pister aussi leur vie, hein, par l'intermédiaire du testament.
Alors ils sont de petits entrepreneurs parce qu'ils ont une façon, ils possèdent des parts. Alors ils possèdent des parts soit dans une mouline, soit dans.
Alors ils possèdent pas des parts de mouline parce que l'atelier, si vous voulez, le loue, hein, justement à un certain nombre de ces notables d'Arles-sur-Tech, de Prasse de Moyaux, etc. Mais par contre, ils le louent et après ils doivent véritablement faire tourner l'atelier, c'est-à-dire trouver la matière première, payer leurs salariés, etc. Salariés, en ce qui concerne les Basques, qui sont exclusivement Basques, parce qu'il y a de très très fortes tensions, et avant que les Basques s'installent dans les années 1440, il y a des bagarres, hein, il y a, bon, effectivement...
Des violences entre
des très très grandes violences entre eux et les Languedociens, qui sont expulsés, expulsés littéralement, effectivement, à part une ou deux moulines, alors qu'ils
dominent. Reviendront à la fin du 15e siècle.
Alors ils reviennent à la fin du 15e siècle, ils reviennent avec les Génois aussi, ça c'est encore autre chose, c'est une main-d'œuvre totalement différente, hein, celle des Italiens. Et alors après, les Basques, bon, sans doute reviennent-ils, même j'en suis sûre, au début du XVIe.
Alors, il y a aussi le lien avec... Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit les mules avancer sur les sentiers muletiers, on voit les transporteurs, vous les traquez les uns après les autres. Alors, il y a des transporteurs qui sont dans des villages aux alentours, ils transportent un petit peu, ils participent à cette économie de la vallée du Vallespir. On y voit aussi ceux qui... non pas sans graisse, mais qui investissent, les bouchers, qui sont en fait les banquiers de près de cette région-là. Vous dites qu'ils sont tous chrétiens. On entendra tout à l'heure Giacomo Todeschini nous parler effectivement de la place de la banque en Italie au XIIIe, XIVe siècle. Ils sont tous chrétiens, ces banquiers, et ce sont des bouchers qui prêtent aux autres et qui sont dans des sortes de confréries qui elles-mêmes deviennent des confréries qui vont finir par devenir banquières de cette économie de la vallée du Vallespir au XIVe, XVe siècle.
Alors effectivement, on peut s'arrêter un moment sur le crédit, hein, ce crédit qui est accordé à certains de ces petits entrepreneurs, hein, par d'autres, hein, ou par des notables, des notaires, des apothicaires, etc., etc., et des bouchers. Les bouchers étant également très présents parce qu'ils circulent énormément. Il y a également là aussi de leur part vraiment la possibilité d'avoir, de toucher à la circulation, enfin de participer véritablement à la circulation monétaire. Ce sont donc des gens qui accordent des prêts, mais ces prêts, s'ils sont accordés par des individus, le sont aussi, comme vous le dites, par des institutions, et en particulier, comme vous le dites, c'est très intéressant, par des confréries. Voilà. Des confréries qui réunissent en particulier l'une d'entre elles.
Qui ont leur siège dans des monastères, d'ailleurs,
alors,
pour certaines d'entre elles.
Enfin, oui,
leur siège,
qui sont attachés à l'abbaye d'Arles, mais c'est essentiellement une confrérie, celle qui est intéressante là, de notables. Et donc, ce sont des notables qui accordent des prêts à des plus modestes ou également à des entrepreneurs qui sont de leur famille, hein, il faut le dire.
Alors, pour cela, il faut que cette industrie trouve des débouchés, en l'occurrence, et vous travaillez, vous traquez là aussi la façon dont cette industrie trouve des débouchés du côté de Barcelone, mais bien au-delà. Et il y a dans ce village d'Arles-sur-Tech, donc au XIVe, XVe siècle, vous avez perçu l'existence de 56 forgerons, sur une durée longue évidemment, mais il y en avait 22 au milieu du 15e siècle, dites-vous, et 28 entre 1400 et 1428, parce que vous avez une coupure dans votre documentation en 1428. Mais néanmoins, il y a donc une vingtaine de forgerons dans un seul village, alors que dans les villages alentours, il n'y en a presque pas et qu'ils sont plutôt spécialisés dans le bois. C'est ça qui est assez extraordinaire, Catherine Vernat.
Et c'est ça qui distingue aussi, enfin qui définit ce district industriel, puisqu'il y a circulation des innovations des hommes des capitaux, mais également spécialisation en fonction des lieux. Donc c'est vrai que là, j'ai insisté, c'est effectivement mes intérêts premiers sur la métallurgie, mais vous avez raison de le dire, ce serait incompréhensible cette activité sidérurgique si on ne mettait pas... aussi en évidence l'activité du drap, ces petits bourgs en quelque sorte de bas de vallée d'aval effectivement permettent aussi là offrent une spécialisation pour la circulation, les muletiers dont vous avez parlé. Donc effectivement il y a là un rassemblement en quelque sorte des compétences et une complémentarité incontestable des compétences.
Et puis alors il y a la mine. Ouais. Parce que on apprend en vous lisant que les tragédies de la mine ne datent pas que du 19e siècle. Il y a des tragédies de la mine, il y a des mines qui s'effondrent. Il y en a une qui s'effondre et qui va s'interrompre pendant un certain temps. Et puis il y a les mines sous les vignes, la mine sous la vigne de Pérécomel. Alors c'est comment ?
Alors là c'est un petit peu différent parce que là on va sortir de la sidérurgie, c'est la métallurgie de l'argent. Et cette métallurgie de l'argent qui est également présente à Arles, là, ouais, c'est un véritable trésor hein, que les sources d'Arles-sur-Tech va proposer un paysage, on va dire, économique totalement différent. Hein. C'est-à-dire, d'abord, les innovations ne sont pas les mêmes.
Hein, ce ne sont pas les petits entrepreneurs qui misent.
Alors, mais oui, ce sont les petits entrepreneurs. Mais là, étonnamment, ils ont contact avec la couronne.
Bah oui, c'est ça.
C'est ça qui est amusant. Et d'ailleurs, un de mes collègues, il y a très longtemps, décédé depuis au début du siècle, avait édité un des textes. Il disait, mais qui sont. Alors, il l'écrit vraiment, c'est très intéressant. Mais qui sont ces Pérécomel et Urbaigbel qui sont dans l'antichambre de la reine? Qui sont-ils? Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la mine d'argent, bien évidemment à cause de la récupération de la couronne, c'est une évidence, hein, je veux dire, on ne peut pas faire de l'argent, extraire l'argent sans
avoir l'aval,
bien évidemment, permet également là une entrée de ces petits entrepreneurs, d'origine d'ailleurs, l'un d'entre eux, Perret, au début de sa carrière, a été bouché, dans le palais.
Et donc, Catherine Vernat, quand vous travaillez dans cette vallée du Vallespir, vous tirez tous les fils. Et c'est ça qui est toujours passionnant quand une historienne ou un historien rentre dans un fonds d'archives exceptionnel comme celui des archives nationales d'Arles-sur-Tech et des autres villages, parce que vous n'êtes pas contenté d'Arles-sur-Tech, en l'occurrence, ou des bourgs aux alentours. C'est de faire surgir des vies, on en a dit quelques-unes. Perret Comel, vous vivez avec lui un peu, vous avez vécu avec lui un certain temps.
Alors, Perret Comel, peut-être, mais en fait, j'ai plutôt de l'affection pour Urbain Aiguebelle.
Ouais.
En fait, parce que d'abord, il m'a beaucoup intéressé. Bon, Perret Comel, intéressant avec ses origines de boucher, mais Urbain Aiguebelle est un apothicaire, et Urbain Aiguebelle a connu beaucoup d'échecs, et donc, si vous voulez, bon, j'ai une espèce de une tendresse, on va dire, pour Urbain Aiguebelle. Voilà.
Et donc, ce travail se veut, on l'a dit depuis le départ, un travail qui, disons, va changer les mentalités des médiévistes, dites-vous, avant peut-être même celles des autres périodes historiques. Vous pensez qu'il y a encore du travail pour pouvoir imposer cette idée qu'il y a bien de l'industrie à la fin du Moyen-Âge ? Ou c'est déjà fait, c'est gagné ?
Je pense que c'est gagné. Mais si vous voulez, bon, c'est un aboutissement d'un certain nombre de travaux, d'ailleurs parfois très très érudits, auxquels ont participé. D'ailleurs, bon, j'ai cité le nom de Philippe Bronstein, mais il y a d'autres de mes collègues naturellement qui ont participé à ça. Et je dois préciser quand même que cette avancée doit beaucoup également, d'abord, aux discussions avec les modernistes, comme j'ai dit, mais également au travail qu'on a pu faire avec des archéologues et des archéomètres, je dois le dire, j'ai beaucoup travaillé avec eux, et aussi les historiens des sciences, qui nous ont permis aussi de réfléchir ensemble, on va dire.
Merci beaucoup d'être venue, Catherine Vernat, pour nous parler de l'industrie au village, un essai de micro-histoire sur Arles-sur-Tech entre le 14e et le 15e siècle, publié dans la collection Histoire des belles lettres, et qu'il faut saluer pour le travail éditorial qu'elles accomplissent autour de, non seulement votre livre, mais de beaucoup d'autres livres d'histoire. Et puis, puisque nous avons parlé de révolution, il y a d'autres révolutions au Moyen-Âge que les révolutions techniques. Il y a les révolutions aussi du capitalisme naissant, peut-être. On a le plaisir de recevoir maintenant, dans un instant, donc Giovanni Todeschini, auteur de Richesse franciscaine et d'Au pays des sans noms, entre autres.
Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin.
Giacomo Todeschini, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à nouveau nous parler d'un livre qui s'intitule « Les marchands et le temple, la société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen-Âge à l'époque moderne », paru aux éditions Albin Michel. Alors c'est un livre ancien, c'est un livre qui précède ce que nous avons connu auparavant, parce qu'ils ont été traduits avant celui-ci. On vous connaît pour « Richesse franciscaine, de la pauvreté volontaire à la société de marché », c'était chez Verdier en 2008, ou encore « Au pays des sans noms », et vous étiez venu pour en parler également. « Gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l'époque moderne », toujours chez Verdier, il y a 2 ans. Donc ce livre est antérieur, mais il est publié plus tardivement. C'est un gros livre, donc, de 500 pages que publie Albin Michel, traduit magnifiquement par Ida Giordano et avec une collaboration de Mathieu Arnoux qui a voulu que ce livre existe en français. Alors vous avez eu d'une certaine façon de la chance d'attendre un peu parce que vous avez une préface de Thomas Piketty, celui qui vend des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde pour son histoire sur l'impôt. Il a accepté de faire la préface. Donc en fait, c'est plutôt bien d'avoir Thomas Piketty pour préfacer votre travail.
Très bien. Todeschini. Bien sûr. Non, j'ai écrit ce livre en 2002, pendant mon séjour ici à Paris, invité par l'École normale. Et j'ai vécu un peu ces livres comme une synthèse de ce que j'avais fait à partir des années 70. Et les autres livres, c'est-à-dire La richesse franciscaine et Le pays des sans noms, sont plutôt une conséquence de ce livre.
Et donc, Thomas Piketty dit que c'est un livre important. Ça l'est, effectivement. C'est un livre qui se place dans une réflexion très large, puisque vous commencez au début du Moyen-Âge, même à la fin de l'époque antique, pourrait-on dire, et vous allez jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et vous épousez ces presque 1000 ans d'histoire, justement, dans la relation qu'il peut y avoir entre l'Église, la société, avec la question de l'argent qui se trouve au milieu, de l'argent et de son accumulation, Giacomo Todeschini.
Oui, Piketty, dans son livre sur le capital au XXIe siècle, parle beaucoup d'inégalités et de fausses méritocraties, du fait que dans l'économie contemporaine, les plus riches sont présentés comme particulièrement méritants. Donc, dans mes travaux, j'ai beaucoup souligné la relation qui existe au Moyen-Âge entre accumulation de la richesse, argent, capitalisation de la richesse et élection. C'est-à-dire le fait que le riche, le puissant sont au-dedans, à l'intérieur du cercle des élus.
Mais alors c'est très étrange parce qu'on part de loin tout de même avec la religion chrétienne. Normalement, ça ne devait pas se passer comme cela, c'est-à-dire que c'est tout un travail de constitution, d'un corpus, de docteurs de la foi, de théologiens, qui vont petit à petit amender un message qui était peut-être plus raide, plus difficile, plus franc, pourrait-on dire, vis-à-vis de cette richesse de la part de Jésus. Et il va falloir trouver les moyens de faire en sorte qu'au fur et à mesure de l'avancée du temps, eh bien, il soit possible de justifier l'accumulation des richesses, Giacomo Todeschini.
Ça serait une solution agréable et tout à fait simple, mais je pense que plutôt il y a dans le code du discours religieux occidental et chrétien quelque chose qui a permis cette sorte de rationalisation. Par exemple, je suis pas évidemment un expert des évangiles, mais c'est très, très simple de voir que dans les évangiles, on trouve d'un côté un discours de condamnation de la richesse et de l'autre de représentation des vertus et en général de comportements vertueux en termes financiers ou monétaires. La parabole des talents est bien connue. Et j'ai plusieurs fois cité ce passage parmi les agraphas, c'est-à-dire les dictons attribués au Christ, très répandus au début de l'époque chrétienne. Il y a ce dicton qui dit que le chrétien doit se comporter, doit vivre comme des experts changeurs de monnaie, c'est-à-dire être en gré de distinguer entre la monnaie bonne et la monnaie mauvaise. Je veux dire, il y a dans le code linguistique de la chrétienté occidentale des habitudes formelles, des habitudes lexicales qui lient disons la rationalité économique et la rationalité religieuse.
Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que vous expliquez bien qu'il y a, disons, dans ces textes d'origine, donc dans ces évangiles, la possibilité de se référer à tel ou tel passage de l'évangile et qu'au fur et à mesure de ce Moyen-Âge, eh bien on va changer le type de regard que l'on portera justement par la glose des docteurs de la foi, par la glose des théologiens. Par exemple, vous posez la question dès le départ de la question de l'avoir. Est-ce que l'avoir est quelque chose de bon ou est-ce que l'avoir est quelque chose de mauvais pour le chrétien? Évidemment, il y a une figure qui est une figure a priori repoussoire, c'est celle de Judas l'Iscariote, et vous expliquez qu'effectivement, au fur et à mesure des travaux théologiques, eh bien, on va considérer que cet avoir peut avoir des vertus à condition de l'utiliser de façon très particulière, Giacomo Todeschini.
Oui, à partir des Actes des Apôtres, c'est-à-dire d'un texte qui appartient au canon évangélique, on commence à dire que si avoir et posséder aussi sont fonctionnels au développement de la communauté chrétienne, de la communauté des parfaits, de parfaits potentiels, alors avoir et posséder sont des actes vertueux. Donc il y a dans le corpus des évangiles tout un réservoir de termes, de concepts, de conceptualisation, et on a un peu trouvé dans ces réservoirs ce qu'on voulait trouver.
Oui, c'est ça. Et en particulier à partir du moment où la règle bénédictine, où les monastères commencent à posséder, effectivement, à devoir, pour pouvoir faire vivre la communauté des moines, eh bien, avoir des terres, les faire fructifier, il va falloir justifier que cet espace sacré, qui peut être l'église ou qui peut être le monastère, eh bien, a l'autorisation, d'une certaine façon, de gagner quelque chose sur cette terre qui est offerte à tous les chrétiens, Giacomo Todeschini.
C'est très ancienne, la théorie, si vous voulez, mais c'est aussi une position juridique de l'Église, à propos du fait que les biens sacrés sont, disons, des biens dont on peut penser seulement la croissance et donc qu'il faut préserver et qu'il faut accroître, justement. Et il y a un beau texte du début du Moyen-Âge, une règle monastique qui influence profondément la règle de Benoît, qui dit que le bien du monastère sont tous des biens sacrés. Les objets qu'on utilise à la cuisine sont des biens sacrés, et la terre comme les objets liturgiques. Et c'est un texte emblématique, je trouve. Donc le bien de l'église, des églises, les biens sacrés, sont une sorte de représentation emblématique des biens des chrétiens, et en tant que biens sacrés, sont des biens qui contribuent à la perfection de la société, donc...
C'est autorisé de les accumuler, de les augmenter.
Il faut les accumuler.
Voilà, c'est ça.
Il faut qu'il y ait une sorte de développement de cette économie. Donc la croissance, ça devient énormément important.
Alors cela, c'est possible parce que ce sont des biens sacrés dans une enceinte sacrée qui peut être l'église et le monastère, mais ça pose d'autres questions. Certes, on dit que la société médiévale est une société dont l'église est d'une certaine façon la figure emblématique et tout est chrétien. Mais... En l'occurrence, il y a tous ceux qui sont en dehors de cette enceinte du monastère, en dehors de cette enceinte de l'église. Comment justifier le fait qu'ils accumulent, eux, en tant que laïcs, par exemple, de l'argent, qu'ils accumulent des biens, qu'ils accumulent de la richesse?
Il y a beaucoup de solutions à ça. Et disons, la plus ancienne consiste dans la possibilité de se représenter comme sacré le bien des laïcs qui communiquent une partie de leurs biens à l'église, aux églises, aux monastères. Donc lorsqu'il y a un sort de commerce sacré entre le laïc et les institutions ecclésiastiques, le bien des laïcs commence à être pensé comme des biens sacrés et dont il faut, ce n'est pas seulement possible, mais il faut penser le développement, donc la croissance, etc.
Alors, ce qui est fort intéressant quand on lit Les Marchands et le Temple, Giacomo Todeschini, c'est que vous nous faites une histoire précise qui avance pas à pas, pourrait-on dire, tout au long de ces siècles du Moyen-Âge et qui nous montre effectivement que ça n'est pas la même chose au VIe siècle qu'au Xe siècle, qu'au XIIe, qu'au XIIIe ou qu'au XVe siècle, en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe pour que... vous voyez quelque chose d'important se dérouler aux alentours du XIIIe siècle. Vous considérez que c'est un moment important dans vos travaux en général, aussi bien dans Richesse franciscaine que dans Les Marchands et le Temple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'il y ait, selon vous, plutôt une sorte de radicalisation de ces positions que vous nous avez exprimées comme étant des positions du début de l'Église même?
Je dirais plutôt que, disons, de... Du début du Moyen-Âge jusqu'au XIIIe siècle, il y a la fabrication de tout un lexique économique interne aux églises, aux monastères, donc interne à une élite. Et donc on fabrique vraiment un vocabulaire.
Et une pensée économique.
Et une pensée économique qui lie dans une perspective très nette religion, économie, élection, croissance, etc. Et au moment de ce qu'on a appelé la révolution économique du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre XIe et XIIIe siècle, au moment de la réforme de l'Église, de la naissance de la théocratie pontificale...
Et de l'explosion des villes.
De l'explosion des villes, de l'explosion de l'économie marchande, etc. On retrouve ce lexique, et déjà après, existait déjà.
Vous voulez dire que le corpus théorique est déjà là?
Il y a quelque chose qui était un peu submergé, qui existait, qui se revitalise et qui devient quelque chose de vivant en contact avec cette nouvelle économie, je pense.
Et qui le revitalise, justement? Vous avez expliqué déjà dans Richesse franciscaine, les franciscains, mais les dominicains aussi?
Les ordres mendiants, oui, bien sûr. Et ce sont des corps institutionnels très avancés d'un point de vue culturel. Donc, ils revitalisent ce langage. Ils sont en contact direct avec ce qu'on appelait la nouvelle bourgeoisie marchande dans les villes plus avancées, par exemple dans le sud de la France, dans l'Italie centrale, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi le puissant laïc qui sont très intéressés à l'utilisation de ce langage de l'économie vertueuse pour pousser, d'un certain point de vue, leur administration. Et...
Vous notez dans ce travail, Les marchands et le temple, qu'il faut absolument lire, traduit par Ida Giordano, chez Albin Michel, Giacomo de Destini, vous notez que ce milieu de XIIIe siècle en particulier est marqué par l'explosion de testaments d'usuriers repentis. Et on a souvent dit que c'était, et vous inscrivez en faux par rapport à cette interprétation qui vous paraît trop simple d'une certaine façon. On a souvent dit que c'était la montée du contrôle de l'Église sur la société au XIIIe siècle. Et vous y voyez autre chose. Vous dites que ça n'est pas pour rien que c'est au milieu du XIIIe siècle qu'il y a cette multiplication des testaments d'usuriers repentis qui rendent une partie de ce qu'ils ont gagné dans leur travail d'usurier à l'Église.
Alors, d'un point de vue méthodologique, j'ai toujours trouvé, je trouve, que c'est un peu étrange de présenter l'Église comme un corpus hors de la société, du moment que la société médiévale, et peut-être moderne aussi, est une société très un but des conceptions ecclésiastiques, des conceptions religieuses. Et il y a une relation entre, par exemple, droit canon, droit civil, institutions religieuses, institutions du pouvoir laïque, très intense depuis le Moyen-Âge. Donc c'est vraiment impossible et je dirais un peu absurde de s'imaginer l'Église comme quelque chose qui est sur une autre planète. Donc il y a une relation très étroite entre ce qui est religieux et ce qui est, nous disons, entre guillemets, laïque au Moyen-Âge. Donc la restitution des usures nous pose le problème de l'usure au Moyen-Âge que j'ai plusieurs fois analysé dans mes livres. Et en général, l'historiographie a longtemps souligné le fait que l'usure était interdite par les institutions ecclésiastiques. Ce qui est vrai, l'usure était interdite, mais le crédit était admis. Donc,
C'est l'excès qui est interdit. C'est d'aller...
Je dirais plutôt, ce sont les formes de crédit qui sont pratiquées par des sujets non autorisés à les pratiquer. Par exemple, lorsque les monastères ou les grands marchands liés à l'Église font des opérations de crédit, ce type d'opérations ne sont jamais appelées usure. Donc le problème n'est pas le contrat, c'est-à-dire la nature formelle de la relation de crédit, mais plutôt le sujet qui autorisé à pratiquer l'opération de crédit ou pas.
Et c'est donc la question de celui qui est fidèle ou celui qui est infidèle. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a les mêmes droits d'une certaine façon quand on est fidèle ou infidèle? Et évidemment, parmi ces infidèles, il y a les Juifs au Moyen-Âge.
Bien sûr, mais pour dire encore un mot sur les usuriers chrétiens, et le problème des usuriers, c'est pour ça qu'on a les restitutions à partir de la fin du XIIIe siècle. Et il y a un livre qui va paraître sur ça à l'école française de Rome. Le problème de la restitution, c'est un problème qui a à faire avec la volonté, le désir des usuriers de se transformer en banquiers, c'est-à-dire de se transformer en des personnages honorés à l'intérieur de leur communauté et de n'être plus de personnages honteux, c'est-à-dire d'être autorisés à pratiquer le crédit. Et les Juifs, évidemment, les Juifs sont hors de ce cercle vertueux du moment qu'ils sont Juifs, du moment qu'ils sont infidèles. Mais comme les Juifs, beaucoup d'autres gens, beaucoup de chrétiens sont hors de ce cercle vertueux parce qu'ils ne sont pas en communication avec la sphère sacrée, parce qu'ils ne sont pas en communication avec les institutions ecclésiales. Et donc, il y a tout un monde de sans nom, justement, qui n'est pas autorisé à pratiquer les opérations de crédit, qui sont des opérations subtiles et compliquées. Et donc, tous ces gens sont
marginalisés
et représentés comme des économiquement coupables.
Alors, il y a l'idée aussi que l'usurier a un pouvoir sur celui à qui il prête de l'argent.
Bien sûr.
Et évidemment, la vraie difficulté, et vous l'expliquez très bien dans un chapitre de Ces marchands et le temple, c'est que des infidèles qui sont usuriers, et en particulier juifs, puissent avoir un pouvoir sur des fidèles. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est une question hiérarchique, c'est une sorte de renversement hiérarchique. Il n'est pas normal, dans une société chrétienne, que ceux qui ne le sont pas puissent avoir un pouvoir sur ceux qui le sont, Giacomo Todeschini.
En fait, il faudrait rapprocher le problème de l'usure de juifs avec l'interdiction que l'Église, le droit canon, déclare depuis le haut Moyen-Âge, l'interdiction aux Juifs d'avoir des charges publiques. Mmh. Donc le problème est en fait un problème de pouvoir. Mais il y a une ambiguïté parce que on fait un peu le choix de confier à ce groupe spécifique d'infidèles qui sont les Juifs, les affaires d'usure, donc des affaires un peu louches, et en même temps, on a interdit l'usure, donc c'est un peu compliqué. En
fait. Oui, et il y a aussi quelque chose qui est tout à fait fondamental au cœur de votre travail, Giacomo Zischini, c'est qu'en fait, vous dites que on exprime aussi l'incapacité pour ces infidèles, quels qu'ils soient d'ailleurs, tous ces infidèles, tous ceux qui sont ces sans nom et qui n'ont pas le droit justement à ce crédit, à le pratiquer, de savoir faire fructifier, selon les valeurs chrétiennes justement, le bien et la richesse d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a chez eux une incapacité presque formelle et presque de nature ontologique à savoir faire. Parce qu'ils n'ont pas justement tous ces codes qui ont été élaborés depuis le début du Moyen-Âge, Giacomo Todeschini, par ceux qui ont écrit comment faire pour pouvoir bien user des biens de ce monde.
On pourrait dire que l'art de faire des investissements commence à être pensé à la fin du Moyen-Âge comme quelque chose qui est en relation avec une condition d'élection. Et par exemple, on retrouve à la fin du Moyen-Âge le discours évangélique sur le talent et on retrouve la figure du cerf, du servant, qui cache la monnaie dans la terre en lieu de la confier au banquier. Et donc, on dit en fait que le sans-nom, c'est que j'ai appelé le sans-nom, donc les infidèles, le personnage vulgaire, le petit peuple, les pauvres en général, sont un peu comme le servant de la parabole qui cache leur argent sous le matelas ou dans la terre et sont incapables de l'investir, donc de le sacraliser en l'investissant, en le faisant circuler, etc.
Merci Giacomo Todeschini. On ne peut que conseiller la lecture de ce livre tant attendu depuis des années en France, en tous les cas, parce que ceux qui lisaient l'italien l'avaient déjà lu depuis longtemps, paru en 2002 en Italie et qui vient tout juste de paraître en français avec une préface de Thomas Piketty, traduit l'italien par Ida Giordano avec la collaboration de Mathieu Arnoux. C'est chez Albin Michel et nous vous invitons déjà pour revenir lors de la parution en français de vos prochains ouvrages, donc sur la banque et le ghetto et ceux que vous êtes en train de faire également sur les Juifs en Italie, parce que nous aimons beaucoup votre travail. Merci beaucoup, Giacomo Todeschini.
Merci à vous.
Voilà comment se termine cette émission quasiment exclusivement intéressée à la question de l'industrie, de l'économie au Moyen-Âge. Mais il y a toujours, en fin d'émission le vendredi, vous le savez, cette rubrique qui s'appelle « C'était à la une » avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Des comédiens et des comédiennes lisent pour nous des grands articles de presse des deux derniers siècles qui sont sur ce site Retro News de la BNF.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Petit Journal, 2 octobre 1923. Georges Carpentier abat Joey Beckett en 48 secondes. Londres, 1er octobre. Dans l'immense hall de l'Olympia, rempli d'une foule dans laquelle sont représentées toutes les classes, Georges Carpentier vient à nouveau de triompher de Joey Beckett, le champion poids lourd de Grande-Bretagne. En 1919, le 4 décembre, au Holborn Stadium, le Français avait mis exactement 1 minute 14 secondes pour abattre le même adversaire. Et cette performance n'avait de comparable dans les annales pugilistiques que celle accomplie par le même Georges Carpentier le 8 décembre 1913, date à laquelle il triompha de Bombardier Wells en 1 minute 13 secondes. Ces deux records furent battus ce soir et d'assez loin. C'est en effet au bout de 48 secondes seulement que se termina la lutte, si tant est que l'on puisse dire qu'il y a eu lutte, dans un match qui dura juste le temps de placer le coup qui donne la victoire. Que l'on retire en effet les 10 secondes fatidiques égrenées par l'arbitre, et il reste 38 secondes. Quoi qu'en pensent certains, une victoire aussi concluante aura sa répercussion outre-Manche et même en France. Il n'est point excessif de dire que Georges Carpentier, celui que l'on appela autrefois notre Georges national, est toujours le porte-drapeau du pugilisme français. L'homme a reconquis ce soir auprès du public britannique son prestige d'antan. Je vous ai dit plus haut que la salle était archi-comble. Vous n'aurez une idée que quand je vous aurai donné le chiffre de la recette. Celle-ci fut de 30 000 livres, ce qui, au cours du change, représente 2 220 000 francs. Et là aussi, tous les records européens pour une réunion sportive furent battus, et d'assez loin. Les matchs qui précèdent la grande rencontre laissent le public assez froid. Les minutes s'écoulent, et à 22 heures, Joey Beckett fait son apparition. La foule l'acclame et ovationne également Georges Carpentier, qui arrive immédiatement après. On procède aux opérations préliminaires, choix des gants, pose des bandelettes, et les deux adversaires attendent très calmes le signal. Le coup de gong retentit 10 minutes après que les boxeurs sont entrés sur le ring. Un silence impressionnant règne à ce moment dans la salle. Le timbre finit à peine de résonner que Carpentier s'élance sur la pointe des pieds et décoche à son adversaire un coup du gauche qui ne semble pas affecter Beckett. Après ce premier contact, les deux hommes se remettent en garde. Carpentier part avec la rapidité de l'éclair, fait une feinte du gauche et le fameux crochet du droit se déclenche. Avec une précision extraordinaire, le coup arrive à la pointe du menton du boxeur britannique qui fléchit sur ses jambes. Avant que Joey Beckett soit revenu de sa stupeur, le droit de Carpentier est revenu. À la même vitesse, toujours à la pointe du menton. Et cette fois, le champion britannique mesure le canevas. L'arbitre égrène les secondes. Le corps de Beckett est agité par des soubresauts, mais l'Anglais trouvera cependant la force de se remettre sur ses jambes avant le compte fatal. On sent à ce moment que le match ne peut plus aller loin. Car lorsque Joey Beckett se remet en garde, il semble avoir perdu la notion des choses. Le droit de Carpentier part une troisième fois, et ce sera la bonne. Car le boxeur britannique s'écroule sur le dos, près des cordes. S'accrochant à celle-ci, Beckett fait des efforts désespérés pour se relever, tandis que l'arbitre recommence à compter. Il n'est pas douteux que le champion anglais ait knock-out. Mais pour éviter cette décision, les soigneurs, sentant qu'il n'y avait plus aucun espoir, jettent l'éponge, annonçant ainsi que leur homme abandonne. Mais l'arbitre ne l'entend pas ainsi. Il continue à compter et déclare, après les 10 secondes écoulées, Carpentier, vainqueur, par knock-out. La victoire du Français est accueillie par une ovation formidable. Toute la salle est debout et les spectateurs enthousiastes sautent sur le ring et hissent le Frenchman sur leurs épaules.
Et voilà, grâce à Nathalie Canoui, vous avez pu voir ce match de 1923 entre Carpentier et Beckett. Carpentier, le porte-drapeau du pugilisme français. Si vous voulez en savoir plus sur ce texte, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur le site Retro News de la BNF, notre partenaire pour cette opération. Et je rappelle que donc, jeudi prochain, le 23, entre 18h et 20h, nous enregistrons avec 4 comédiens et comédiennes les nouveaux textes qui vous seront proposés dans la saison qui viendra donc autour de ces grands articles de presse depuis 2 siècles. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Anthony Thomasson était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire de l'Antiquité.